Mehdi Yaoudic, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes co-auteur d'un film qui s'intitule La Parade, un 52 minutes. Est-ce que c'est un documentaire sonore ou est-ce que c'est beaucoup plus ?
Alors c'est évidemment beaucoup plus qu'un documentaire sonore. C'est un travail qu'on a fait en co-réalisation avec Samuel Bollendorf, qui est lui-même photographe. Et en fait, c'est un documentaire en ce qu'on appelle photographie parlante, c'est-à-dire qui allie un travail de réalisation d'images fixes avec une réalisation sonore.
On peut dire que c'est une forme un peu hybride entre le documentaire sonore et le film.
J'ai du mal avec le mot hybride parce que ça voudrait dire que c'est quelque chose d'un peu subsidiaire, secondaire, qui fait un pas vers. Non, je crois que c'est vraiment une forme à part entière qui a sa place et qui a toujours eu sa place. Ce type de production a toujours eu sa place dans l'audiovisuel, dans le sens où dans audiovisuel il y a audio et visuel. Et que, qu'on le veuille ou non, ou qu'on essaye de transformer les modes et de production et de diffusion pour dire que l'audiovisuel, c'est que du visuel avec du son, ben non, en fait, c'est toujours une réalisation audio et une réalisation visuelle. Et c'est ce qu'on fait avec Samuel.
Dans beaucoup d'œuvres audiovisuelles, le son est relativement au second plan, vous le pensez ?
Je pense surtout que le son, souvent, c'est un peu le petit soldat de l'image. Il court après l'image, en fait. Et en fait, souvent, beaucoup de productions audiovisuelles demandent que le son soit en fait ce que raconte l'image, et uniquement ce que raconte l'image.
Donc vous venez du métier, des métiers du son. Est-ce que ça, pour vous, donne forcément une orientation à ce que vous produisez comme œuvre ?
Ah bah oui, évidemment, en documentaire, oui, évidemment. Bon, par exemple, si on revient à La Parade, c'est un film qui allie des panoramiques photographiques et puis des photographiques et des vidéos incrustées dans des photos qui dialoguent avec une narration sonore. Donc évidemment, la narration sonore est aussi au centre de la réalisation, ou plus exactement, le son et la photographie sont deux éléments de la réalisation. C'est pour ça que nous sommes vraiment co-réalisateurs. Donc oui, ça oriente beaucoup cette question du fait que je vienne du son et que je fasse des films.
Donc on peut peut-être revenir à la genèse de ce film. Pourquoi a-t-il été produit ? Par qui ? Pour qui ?
Alors au départ, c'était une série pour le web, pour les nouvelles écritures de France Télévisions, et c'était 10 épisodes de 5 minutes. Et Jean-François Karpinski de France 3 Nord-Pas-de-Calais a vu la série et nous a dit « moi j'ai envie d'en faire un 52 minutes ». Donc un film de télévision en photographie parlante sur la chaîne France 3 Nord-Pas-de-Calais. Donc on était assez étonnés et assez heureux de ça en fait. Et du coup, ça nous a permis de faire le film que vous avez vu, enfin qu'on a vu aujourd'hui à l'Université de Lille, et qu'on peut revoir demain, et qu'on peut revoir aussi pendant le Festival des Étoiles de l'ASCAM à Paris.
Donc vous venez d'une autre région que les Hauts-de-France. Vous êtes resté longtemps en immersion ici ?
On y est resté un an. Après, on n'y était pas 24 heures sur 24, évidemment, mais on est venu régulièrement, au moins, souvent, on venait vraiment presque toutes les semaines, en fait. Oui, on venait toutes les semaines pendant un an, ici.
Donc vous avez fait des repérages et vous avez traité de sujets qui nous sont chers pour nous, bien sûr, gens de la région, et que vous découvriez peut-être pour vous.
Ce que je découvrais surtout, c'était la survivance de ces cultures populaires, puisque La Parade raconte comme ça les passions des gens dans leurs loisirs, et même plus que dans leurs loisirs, dans leur culture, à travers les géants, les coqs de combat, la colombophilie. Et c'est surtout le fait que ce soit tellement vivace qui m'a surpris, en fait.
Donc aussi des gens dont vous avez découvert les qualités.
Les gens qui sont dans le documentaire, oui, évidemment. Alors, non pas que je doutais de leur qualité, mais je pense que ça a surpassé ce que j'imaginais, comme c'est toujours le cas quand on fait une rencontre, en fait. Quand on va pour rencontrer quelqu'un, en général, c'est assez souhaitable qu'on soit surpassé par, parce que la personne nous donne à découvrir d'elle-même. Et là, c'est ce qui s'est passé sur la parade. Les personnages, bien sûr, on imaginait ce que ça pouvait être, quelqu'un qui fait du tuning, bien sûr, on pouvait imaginer ce qu'était une majorette. Mais Clo-Clo numéro 18, on n'aurait jamais pu l'inventer avant de la rencontrer. Fabien, qui est porteur de géant de Douai, on n'aurait jamais pu inventer cette passion qu'il avait, cette manière de nous narrer cette histoire des géants. Voilà, Gros Bleu, Petit Bleu, tous ces personnages sont des gens qu'on n'aurait pas pu inventer, en fait, sans les rencontrer. Donc oui, ça a largement dépassé ce que j'imaginais.
Donc des individualités parfois fortes, mais aussi des groupes sociaux, parfois très petits, des micro-groupes.
Des micro-groupes, oui. Alors groupes sociaux, je ne sais pas, mais en tous les cas, des micro-groupes à l'intérieur de la société, quoi, qui étaient dans des pratiques qui sont souvent considérées comme totalement illégitimes. Parfois même pour ce qui concerne le tuning, parfois largement méprisé par une culture qui se dit plus légitime. Et nous, ça a été notre démarche, c'est d'aller les voir, c'est d'aller les voir comme on aurait été voir un peintre, un sculpteur ou quelqu'un qui aurait une pratique qui nous paraisse plus commune et plus noble, entre guillemets.
Donc ce film, Mehdi Aoudig, met bien en évidence des personnes qui ont un vécu et qui vivent pleinement leurs activités, leurs passions. Leur vie est transcendée d'une certaine manière par ce qu'ils réalisent.
Ah oui, leur vie est complètement transcendée par ce qu'ils réalisent, ouais. Tout à fait, ouais.
Et est-ce qu'il y a dans les régions que vous avez traversées, des équivalents, ou est-ce que c'est vraiment une spécificité que vous avez découverte, peut-être, dans notre région?
J'ai l'impression qu'ici, dans le Nord, bien sûr, il y a d'autres régions où il y a des choses qui survivent. Mais, par exemple, si on prend, je ne sais pas, un des sujets qu'on n'a pas traité dans la parade, qui sont les Canaries. Les Canaries, c'est quand même quelque chose d'extrêmement vivace. On aurait aimé le faire... On n'a pas pu le faire pour des questions éditoriales, mais vraiment c'est quelque chose qui nous aurait beaucoup plu de traiter. Bon bah c'est incroyable comment c'est vivace, quoi. C'est incroyable comme il y a des gens qui le font, c'est incroyable comme les gens qui le font sont passionnés. Et ça sur une pratique qui peut paraître désuète, en fait, élever des petits canaris. Après, dans d'autres régions, si on va en Bretagne, si on va dans le centre de la France, on va avoir quelque chose peut-être sur la musique traditionnelle, sur la danse traditionnelle, sur des choses comme ça. Mais ça reste encore des pratiques qui sont plus légitimes, quoi. C'est rentré dans le patrimoine, d'une certaine manière. Bon, le tuning, non. Les majorettes, non. Les coqs de combat, non plus, quoi. Peut-être les géants sont rentrés dans un certain patrimoine d'une culture du Nord, mais les coqs de combat, c'est quand même très mal vu. Bon, peut-être un peu la colombophilie, il y a quelque chose d'un peu plus, en tous les cas, qui résonne plus comme quelque chose d'un peu romantique, cette idée du pigeon voyageur, et ainsi de suite.
Alors, c'est vrai que dans ce film, on voit un lâcher de colombes assez extraordinaire. D'ailleurs, 8500 colombes, c'est ça?
Oui, c'est ça, ouais. Ouais, qui décollent, qui sont libérées d'un smirmorque. Alors, pour la petite anecdote, ce lancer qu'on a voulu enregistrer, c'est un lancer qui se passe le matin très tôt. Et c'est conditionné à la météo, en fait. Donc, on est parti dans la nuit de Paris. Alors, c'était dans le sud de Paris. On est arrivé, on a vu les gens qui sont dans le film, là, et on a discuté avec eux. Puis, à un moment donné, ils ont dit, en fait, on va pas lâcher les pigeons. Parce que s'il y a trop de nuages, ils lâchent pas les pigeons. Ils les lâchent pas parce que sans le soleil, ils se repèrent pas, en fait. On sait pas vraiment comment ils se repèrent, mais on sait que par ciel nuageux, ils peuvent pas se repérer. Donc, ils sont repartis et on est revenu le lendemain. Et le lendemain, heureusement, il n'y avait pas trop de nuages. Ils ont quand même fini par lâcher les pigeons. Mais voilà, c'était aussi ce genre de rencontre. C'est-à-dire que de rencontrer la famille Tantard qui va lâcher ses pigeons d'un smirmorque dans plus ou moins une banlieue d'Orléans, je crois, quelque chose comme ça, et qu'on les retrouve à 4h30 du matin. Bon, déjà, quand ils nous ont vus, arrivés, et se sont dit ah bah d'accord, ok, quand en plus ils ont pas lâché les pigeons mais que le lendemain on est revenu, bon là on gagne, d'une certaine manière, on gagne leur confiance, quoi.
Donc les pigeons, on sent bien que les couloneux les affectionnent tout particulièrement, c'est leur vie.
Ah oui, c'est leur vie, il y a une identification totale à leurs pigeons, il y a... Non, c'est vraiment, c'est leur famille. D'ailleurs, il le dit à un moment donné, c'est vraiment comme sa famille, quoi. C'est ses enfants, quoi.
Et si on voit les combats de coqs, enfin les coqs élevés pour le combat, hein, là on est dans des traditions familiales, puisque en fait on ne peut faire ces combats de coqs que dans des lieux qui perdurent par la transmission directe, par héritage.
C'est ça, ouais, c'est ça. Les coqs de combat, c'est soumis à une loi qui est sur les traditions populaires en France, qui a été statué comme ça, c'est que tout galodrome ouvert ne peut pas être fermé. Par contre, tout galodrome qui ferme, donc le galodrome, c'est l'endroit où les gens font les combats de coqs, tout galodrome qui ferme et qui n'est pas repris par quelqu'un, en fait, ne peut pas rouvrir. C'est comme si l'État mettait son espoir dans le fait que ces cultures vont mourir et que donc, du coup, il n'y aura pas de repreneurs et comme ça, après, on sera débarrassé de ces pratiques.
Alors évidemment, ces pratiques peuvent paraître barbares. Par contre, on trouve que les gens qui élèvent ces coqs de combat savent déjà quelle variété de coqs ils entretiennent, hein, puisque c'est aussi transmis au niveau des génétiques, de la génétique, on va dire. Hein. Finalement, ils ont quand même beaucoup d'affection, alors qu'ils savent bien qu'ils mettent en péril les coqs qu'ils élèvent.
Bah oui, mais ça c'est comme un éleveur de bovins. J'imagine que ils ont une certaine affection pour leurs bêtes et en même temps ils les envoient à la fin aux abattoirs. Mais ils ont peut-être la fierté que quand cette bête elle est envoyée aux abattoirs, et ben elle a bien vécu, elle est belle, elle est bonne. Je sais pas. Et pour les coqs de combat, il y a un peu la même chose, quoi. Il y a la volonté de gagner les combats, puis il y a la volonté de vérifier aussi tout ce qu'on a mis en place pendant un an. Est-ce que ça se vérifie? Est-ce que c'est bien d'avoir ce coq reproducteur? Est-ce que il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'accomplissement, certes, qui peut finir par la mort du coq au combat. Mais bon, je veux dire, on peut pas tout regarder sous le prisme de la morale, en fait. C'est-à-dire que c'est des débats éternels, comme la corrida, comme tout ça. Si on regarde la corrida que sous l'angle de ces horribles taureaux, ils souffrent, on le tue à la fin.
Ce qui est vrai aussi.
Bien sûr, c'est vrai, mais est-ce que ça peut se réduire qu'à ça? Est-ce que les coqs, ça peut se réduire qu'au fait qu'à un moment donné, ils sont dans un galodrome et ils se battent, et peut-être qu'ils finissent estropiés, morts, est-ce qu'on peut voir que ça, en fait? Est-ce qu'il n'y a que ça à voir dans cette pratique ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Moi, je suis persuadé, et c'est le pari qu'on a fait, qu'il y a autre chose à voir dans ces pratiques-là que simplement le côté moral, le côté hygiéniste, le côté... voilà, il y a autre chose à interroger, quoi.
Donc, ces gens qui sont captés en son et en image ont des vies très denses dans des contextes qui sont les leurs et on a vraiment cette impression par exemple de la majorette hein, dont on voit aussi les parades hein, puisque là on parle du film Parade mais il y a des parades que l'on retrouve aussi sur des routes inhabituelles quand même, c'est pas là qu'elles sont en général, ça c'est l'aspect poétique du film aussi.
Bah oui, on avait envie qu'il y ait cette dimension-là, c'est-à-dire qu'il y ait effectivement une dimension de conte dans ce film. Donc il a fallu que, une fois qu'on a établi le climat de confiance avec les protagonistes du film, il a fallu aussi leur dire « Eh ben, vous voudriez aller danser sur la plage de Dieppe? Vous voudriez aller danser dans un coron ?» Et ça demandait que on peut évidemment pas, alors surtout en documentaire, on peut évidemment pas en documentaire instrumentaliser les gens au point qu'ils ne soient pas d'accord. C'est-à-dire que la majorette, si les majorettes elles dansent sur la plage de Dieppe, c'est parce qu'elles sont d'accord et qu'elles sont partie prenante du film. Sinon, elles le font pas.
Il y a une phrase aussi qui m'a marqué de l'adepte du tuning. C'est « Je suis un gosse, j'ai envie de jouer ».
Ah oui, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi, alors particulièrement dans le tuning. C'est vrai que c'est un gosse, il a envie de jouer. Il pensait qu'il y a une seule chose, c'était à sortir sa voiture. Et je pense que les autres, beaucoup des autres aussi, c'est ça. Les majorettes, c'est beaucoup ça. Même s'il y a ce drame, mais c'est quand même aussi beaucoup ça. Et alors les coqs de combat, évidemment que c'est ça. Et les coulonneux, c'est pareil. C'est une course, ils ont envie de gagner. Ou alors ils ont envie de se mesurer aux autres. Il y a quelque chose de l'ordre du ludique, quoi.
Du ludique et parfois du permanent, puisque une autre expression que j'ai beaucoup aimée aussi, c'est par rapport aux géants, je n'ai jamais assisté à un enterrement de géant.
Ouais. C'est pour ça que la figure du géant, on a beaucoup élaboré autour de cette figure du géant, parce qu'effectivement, il a tout vu, il a tout entendu, comme nous dit Fabien Pichard dans le son. Il nous dit ils ont tout vu, tout entendu, ils ont même vu le général de Gaulle. Et pour nous, c'était important cette permanence des géants. C'était comme s'il y avait la possibilité, effectivement, qu'il y ait des mondes qui s'écroulent, mais en tous les cas, les géants, eux, c'est une figure du nord de la France qui est là pour témoigner de ce qui s'est passé et qui sera encore là, en fait, pour témoigner de ce qui va se passer, en fait.
Voilà, donc le film met bien en valeur cette notion de transmission, cette notion aussi de durabilité, de choses qui sont peut-être considérées comme éphémères, voire inutiles, mais de toute façon passionnantes. Donc, on peut, Mehdi Aoudig, aussi donner une idée quant à vos maîtres en termes de son, par exemple. Est-ce que vous pourriez nous donner des grands du son qui vous ont marqué et peut-être que vous conseilleriez ou dont vous conseilleriez peut-être la lecture d'ouvrages ?
Alors, évidemment, le premier nom qui me vient, c'est Daniel Dehaye, parce que Daniel Dehaye, d'abord, est la première personne avec qui j'ai fait un stage, déjà. Mais c'est pas nécessairement pour ça que je le cite. C'est parce que c'est vrai que depuis un certain moment, il écrit beaucoup autour du son. Il fait beaucoup aussi d'expérimentation d'écoute qu'il propose aux gens. Et je pense que c'est l'une des lectures les plus... pour moi, de laquelle je me sens presque le plus proche, en fait, en termes de considérer la question de l'écoute et du son. Donc vraiment, Daniel Dehaye, son dernier livre est j'ai oublié le titre.
Une écriture pour le son.
Alors, Une écriture pour le son, ça, c'est un livre qui est très intéressant pour effectivement peut-être commencer, d'ailleurs, dans cette question de l'écoute et du son. Parce que c'est un livre d'entretien avec Daniel, et là il explore tous les aspects du son au cinéma, au théâtre, à la radio. Et il y a quelque chose de très pratique aussi. Alors je recherche le titre de son dernier livre,
De mon oreille.
Sous de mon oreille.
Il y a quelque chose entre deux.
Sous l'avidité de mon oreille.
Ah, voilà.
Alors voilà, Daniel Dehaye, Sous l'avidité de mon oreille, qui est le dernier livre qu'il a écrit, et qui, là, est peut-être contrairement à pour une écriture du son, est un peu moins pratique et un peu plus sur quelque chose d'une grande profondeur sur la question de l'écoute.
Bien, merci Mehdi Aoudig pour ce film réalisé donc avec votre associé, le co-auteur
Samuel Bollendorf.
Et puis bonne continuation, merci de nous rendre visite quand vous voulez.
Merci beaucoup, au revoir.